Europe 1 Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Ça fait débat, comme tous les week-ends à 18h30. Bonsoir William Tay.
Bonsoir Pierre.
Du think tank Le Millénaire. Bonsoir Benjamin Morel.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit public avant de parler du Conseil constitutionnel. On va pas s'en priver avec vous. Benjamin Morel, un petit mot sur la communication politique et notamment sur celle de l'exécutif. Pour résumer les épisodes, je vous propose d'écouter ce qu'en disait Catherine Ney ce matin sur Europe 1 dans l'émission Les Grandes Voix.
Il y a la contestation. Le président, il donne une interview à Pif Gadget. Bon, c'est le moment que choisit une ministre, quand même, de poser dans Playboy. Bon, elle ne sera pas comme autrefois nue, mais enfin, une robe blanche.
Marlène Schiappa.
Madame Schiappa.
Secrétaire d'État à l'économie sociale.
Bon, mais il faut dire aussi que c'est une femme en ce moment qui est amoureuse. Elle a raconté son coup de foudre à Manhattan, qui est sur le marché du désir et qui va parler du féminisme.
C'est du voyez.
Et puis, il y a monsieur Dussopt qui fait son outing dans Tétu, qui dit qu'il est homo et qu'il est pour la GPA, mais d'abord on s'en moque, on le savait, enfin peu importe. Mais tout ça, vous dites, où est-ce qu'on est là? On se dit, tiens, c'est un film pour Almodovar, vous voyez, c'est des choses totalement farfelues.
Est-ce qu'on est en plein scénario à la Almodovar, William Tay?
On pourrait se dire que c'est le 1er avril, que c'est une mauvaise blague que nous prépare le gouvernement, mais malheureusement, c'est la réalité de la France.
Vous êtes moins enjoué que Catherine, qui est plutôt joyeuse.
Ouais,
ça vous attriste.
Moi, ça m'attriste parce qu'on est dans une situation avec une certaine gravité. On est dans une situation pré-insurrectionnelle, avec une crise politique qui peut déboucher sur une crise de régime dans la mesure où il y a une impasse politique. Et lorsque vous avez des impasses politiques en France, ça débouche souvent, quand vous regardez sur le plan historique, à des changements de régime. C'est ce qui s'est passé en 58 et ce qui s'est passé lors de la Révolution française. On va espérer que ça n'aboutisse pas dans les scénarios de la Révolution française, ni même à 58. Quand vous réfléchissez et que vous mettez à la place des ministres ou à la place des Français, vous dites les Français vivent une situation difficile sur le plan économique et social. Les fins de mois sont compliquées. Qu'est-ce qu'un ministre parle de ses cas personnels lorsque vous êtes avec un peuple en souffrance? Normalement, vous recevez une délégation de pouvoir. C'est ça la démocratie représentative. C'est-à-dire que le peuple vous confère une partie de sa souveraineté pour que vous l'exerciez en son nom. Donc normalement, un ministère... Le mandat de Premier ministre ou celui de Président de la République n'est pas un job, c'est une charge vis-à-vis des Français. Vous êtes là pour enlever la responsabilité des Français et l'exercer en leur nom. Donc vous n'avez pas à faire déballage de vos outils et de vos états d'âme personnels. Qu'importe que ce soit intéressant ou pas, vous n'êtes pas là pour faire passer vos désirs personnels au-delà du désir collectif. Vous n'êtes pas là pour affaiblir l'image d'un pays. Quand vous exprimez comme ministre, vous exprimez pas comme Marlène Schiappa. Vous posez pas comme Marlène Schiappa, vous posez comme ministre du gouvernement de la France, de la 6e puissance mondiale. Une ministre de la 6e puissance mondiale n'a pas à poser dans un magazine type Playboy. Un ministre du gouvernement français n'a pas à parler de l'étalage de sa vie privée ou personnelle lorsqu'il doit défendre, en l'occurrence, la réforme la plus importante du quinquennat, qui est la réforme des retraites.
Marlène Schiappa dit sur Twitter « Défendre le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est partout et tout le temps. En France, les femmes sont libres, n'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. » Que vous êtes, William Tay.
Oui, oui, mais les femmes sont libres, je suis tout à fait d'accord avec elles. Mais lorsque vous engagez dans un gouvernement, c'est ce que je disais, vous êtes plus, vous appartenez plus vous-même. Vous appartenez à la France et vous appartenez aux Français parce que vous exercez en contrepartie du pouvoir qui vous donne la délégation de souveraineté et de responsabilité qu'ils en incombent. Et malheureusement, ce gouvernement en fait cruellement défaut.
Benjamin Morel.
Alors, je suis d'accord avec William sur la gravité de la situation, mais je crois qu'on a affaire à une bonne vieille stratégie de communication qui s'appelle la diversion. Quand vous vous attardez pendant une journée sur Emmanuel Macron dans Pif Gadget, en effet, c'est ridicule. Et c'est pour ça que ça fait parler. Quand vous entendez Marlène Schiappa parler dans Playboy, c'est ridicule, c'est évidemment que c'est ridicule. Et c'est pour ça que ça fait parler. Pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du sujet qui fâche l'exécutif, c'est-à-dire la réforme des retraites.
Oui, mais enfin,
lorsque l'exécutif...
ça va durer quoi, une heure
Ça dure la preuve depuis hier. On parle quand même de Marlène Schiappa, dont on ne parlait quasiment plus depuis un an. On en parle quasiment non-stop depuis hier. Et donc, ce faisant, on ne parle pas des retraites. Et donc là, il y a une stratégie de communication bien huilée, etc. Quand vous ne voulez pas parler du fond des choses, eh bien, vous parlez d'un petit scandale, vous parlez de la forme, etc. Le gouvernement et Emmanuel Macron sont coutumiers de telles stratégies de communication. S'ils continuent, c'est que ça fonctionne dans une certaine mesure. Mais là où je rejoins William, c'est qu'il ne s'agit pas de faire passer une petite réforme qui posait problème et que l'exécutif avait envie de voir passer sous les radars. On n'est pas, comme sous le premier quinquennat, dans une volonté de diversion. Là, on est vraiment en crise politique. Et je vois mal comment est-ce qu'on en sort. Objectivement, si on fait un peu la rétrospective depuis le début de la Ve République, une telle situation, avec une rue qui aujourd'hui est en pleine ébullition, une opinion qui s'est totalement retournée contre l'exécutif et une absence de majorité parlementaire fut elle-même théorique, c'est probablement relativement inédit parce qu'au moins quand De Gaulle avait des problèmes avec sa majorité, il avait le peuple derrière
c'est
lui.
C'est marrant, à chaque fois qu'il y a un problème, bien on sûr. Sort De Gaulle du sac.
Mais
c'est
quand De Gaulle dissout en 68, il a en effet des problèmes avec la rue, mais il a l'opinion derrière lui. Quand Rocard n'a pas de majorité, il peut malgré tout compter sur un Parlement à peu près maîtrisable et sur le soutien et du PS et de la rue. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, on est quand même dans une situation d'instabilité particulièrement importante. Et la seule réponse, c'est la diversion. La seule réponse, c'est Pif Gadget. Et c'est un problème.
En tout cas, ni Pif Gadget, ni Tétu, ni Playboy n'ont freiné ces 3 à 6 000 manifestants qui sont allés à Vire, sur les terres électorales de Mme Borne, pour protester contre la réforme des retraites, William.
Donc, 3 à 6 000 personnes sur une ville, je crois, qui en compte à peu près 10 000. Mm. Donc, c'est quand même assez important, évidemment. C'est pas...
Il devait être
c'est
40 000. Pas... Bon, voilà, ils attendaient plus
mais
de
c'est,
monde.
C'est quand même, c'est quand même beaucoup. Mm. Et ça interroge sur le cas Elisabeth Borne. Si par cas on était uniquement sur une réforme portée uniquement par Emmanuel Macron, évidemment, est le principal porteur de ce texte. Donc c'est lui qui est visé dans les manifestations. Mais à partir du moment où vous avez des gens qui veulent en plus le départ de Borne, ça pose la question de son maintien. En tout cas, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un boulet pour Emmanuel Macron qui doit porter comme atlas tous les malheurs du monde ? Moi, je pose la question pour plusieurs points. La première, c'est qu'Elisabeth Borne avait été mise en place, au-delà des caractéristiques de genre, donc moi je pense que ça ne fait pas honneur aux femmes et à la cause féministe de mettre quelqu'un juste parce que c'est une femme. Je pense que ça ne les aide pas. On enlève ça. Elle devait tenir parce qu'elle était capable de porter un texte auprès des syndicats. Elle a réussi à réunir tous les syndicats contre elle. Elle devait aboutir à des coalitions dites de projet. Au final, elle a poussé de plus en plus le PS vers la NUPES et les Républicains, elle n'a pas réussi à convaincre les Républicains. Donc le projet de faire des accords texte par texte est quasiment mort, en tout cas dans les textes qui vont venir. Bon, d'ailleurs, on va retirer la loi immigration. Ensuite, après, elle devait calmer l'opinion publique et donc du coup apparaître notamment une figure plutôt sociale du gouvernement. Elle apparaît au contraire plutôt la figure de l'aile la plus conservatrice et la plus dure en portant un texte des retraites. Et au final, quand vous regardez les qualités qui restent à Elisabeth Borne, le fait de pouvoir élargir la majorité, de parler à l'opinion publique lorsque vous avez 25% de cote de popularité, c'est-à-dire que si Elisabeth Borne fait un TF1, il y a quasiment aucun sujet en fait. Les gens ne suivront pas ce que dit Elisabeth Borne. Donc en fait, je ne vois pas l'intérêt de son maintien. Elle a un avantage malgré tout, c'est qu'en fait, elle conserve le cœur de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Et un deuxième avantage, c'est qu'en fait, il n'y a pas de remplaçant idéal pour la remplacer. Mais sinon, elle représente davantage pour moi un boulet pour Emmanuel Macron qu'un atout.
D'ailleurs, on en est à faire les comparaisons sur la durée du mandat d'Elisabeth Borne et celui d'Edith Cresson.
Oui, mais
on en est là en disant vite, il faut quand même qu'elle tienne, puisqu'elle tienne au moins plus, ne serait-ce que quelques jours de plus qu'Edith Cresson.
Mais moi, je pense qu'ils se sont trompés dessus. Je reviens juste en quelques secondes. C'est ils ont maintenu Elisabeth Borne après l'échec de sa campagne législative, parce que c'est elle qui portait la majorité lors de la campagne législative, et ils l'ont pas sortie, d'une part parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de remplaçants, mais surtout parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un fasse moins de durée qu'Edith Cresson. Et je pense que leur originelle date de ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'en fait tout est parti et ils n'avaient quasiment aucune chance de pouvoir s'en relever.
Benjamin.
Oui, est-ce qu'Elisabeth Borne est une fusée ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle est un boulet ? Je suis assez d'accord avec William, mais je reviens sur ce que William disait. Est-ce qu'il y a un remplaçant ? Souvenez-vous, toute la difficulté qu'il y a eu.
Il y a des candidats.
Ah, il y a toujours des candidats, mais la question... Aujourd'hui, encore une fois, on y revient. On est dans une forme de crise politique aiguë. Mmh. C'est pas seulement, entre guillemets, quelqu'un qui serait complémentaire du point de vue de l'image avec le président de la République, etc. C'est quelqu'un qui est capable de tenir et de former une majorité avec Horizon qui tire sur Renaissance, Renaissance qui tire sur le Modem qui tire sur tout le monde, et des Républicains qu'il faut convaincre, mais avec un Olivier Marleix, un Éric Ciotti qui ne tiennent pas leur groupe, parce qu'il y a eu un deal avec les Républicains, mais la réalité, c'est que le groupe est explosé façon puzzle. Toute la majorité potentielle est exposé façon puzzle. Donc il faudra un Premier ministre qui soit assez consensuel pour englober cet angle très très large et qui serait capable d'aller chercher les parlementaires un par un. Je ne vois pas actuellement en Macronie de profil qui soit un profil idoine, d'autant plus que ce n'est pas des vieux militants au Parlement, c'est justement des jeunes pousses souvent, y compris d'ailleurs en partie au sein de LR, donc des gens qui n'ont pas vraiment des habitudes de parti. Donc c'est extrêmement compliqué, il vous faut un Premier ministre parlementaire, il vous faut un Premier ministre qui soit capable de renouer le dialogue social alors que les syndicats ne veulent plus parler parce qu'ils ne parleront au gouvernement qu'en cas de retrait de l'âge de 64 ans pour les retraites. Donc ce profil-là, aujourd'hui, il n'existe pas. Et donc pour Emmanuel Macron, on est dans une situation extrêmement complexe parce que le Premier ministre dont il rêve n'existe pas, c'est le mouton à cinq pattes, et qui plus est, si vous
prenez le soin de regarder un petit peu la rétrospective de la Ve République, changer un Premier ministre, ça n'a jamais fait bondir la cote du président de la République. Ça, c'est un mythe en réalité. Le Premier ministre peut éventuellement jouer parfois les boucliers, c'est très rare. En règle générale, ça ne filtre pas, la preuve en est, Emmanuel Macron dégringole dans les sondages aussi vite qu'Elisabeth Borne. Ça peut jouer les fusibles, mais le fusible n'est pas efficace et il y a le courant qui s'éteint à l'Élysée, pour paraphraser
alors,
un syndicat.
Qui sont les candidats?
Je pense qu'il n'y en a pas. Au
regard.
Moi, je pense que le problème n'est pas le manque de candidats. Il y a des candidats qui sont possibles. Le problème est de trouver un candidat qui est compatible avec Emmanuel Macron. C'est ça le point essentiel.
Et dans la série, pardon, ce que disait Benjamin sur le mouton à cinq pattes, il y a surtout la cinquième patte qui est ne pas faire de l'ombre au président.
C'est ça le problème.
Ah ouais.
C'est ça le problème essentiel.
Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont compétents.
Parce qu'en fait,
il prendrait la lumière.
Parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez une majorité dite relative, il vous faut un Premier ministre politique. C'est ce qu'a fait François Mitterrand. Même s'il n'en voulait pas et qu'il le détestait, il a quand même nommé Rocard en 88. Et pourtant, il le déteste.
Ah oui,
c'est son ennemi personnel.
C'était des ennemis jurés.
Et
candidat à la même élection en 81. Enfin, en tout cas, il devait le faire.
Exactement. Donc, il faut un Premier ministre capable d'élargir la majorité. Un Premier ministre capable d'élargir la majorité, c'est quelqu'un qui représente soit un courant de pensée, soit qui a beaucoup de relations politiques et qui est plutôt charismatique pour pouvoir attirer à soi une majorité.
Dans la situation actuelle où on a vu quand même quelle était la descente aux enfers de la majorité dernièrement, est-ce que finalement, le président ne va pas prendre sur lui en disant « Bon, après tout, il faut quelqu'un, tant pis pour l'histoire de l'ombre et l'image. »
Moi, ce que j'avais compris, c'était qu'il... Potentiellement, il y avait une hypothèse qui aurait pu contenter les Républicains. Mmh. C'était qu'Emmanuel Macron se concentre sur ce qu'il aime faire depuis sa réélection.
C'est-à-dire l'international.
L'international et le régalien. Il laissait les affaires nationales et internes aux Républicains. Mmh. Mais le problème des Républicains, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de majorité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une seule personne.
C'est ce que disait Benjamin.
C'est-à-dire que si vous avez... Et mettons qu'on mette le meilleur des Républicains, c'est-à-dire Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il aura les 60
Pourquoi
sièges ?
C'est le meilleur des Républicains, Laurent Wauquiez.
C'est le candidat qui apparaît comme le plus naturel, qui est soutenu par le parti, par Éric Ciotti, par les groupes parlementaires, par Gérard Larcher, par Bruno Retailleau, qui veulent tous qu'il soit candidat naturel. Donc, il aura au moins le Sénat, il aura une grande partie de l'Assemblée nationale. Mais je vais arriver sur le compte. Admettons que vous mettez Wauquiez. Vous avez les 10 députés de chez Bertrand, menés par Pradier, qui ne vont pas voter. Donc, il vous en manque 10. Vous n'en avez que 50.
Vous avez pas
Chez Renaissance, il y a 242. Mais est-ce qu'ils vont tous voter la confiance à un éventuel Premier ministre, Laurent Wauquiez ? Non. Donc, en fait, même si vous mettez Laurent Wauquiez, qui est le meilleur candidat chez LR, il vous manque un nombre de voix nécessaire. La deuxième possibilité, c'est de mettre un profil qui n'a pas d'ambition présidentielle, qui puisse contenter à la fois Modem, Horizon et éventuellement les Républicains. Et si vous mettez un profil qui n'a pas d'ambition présidentielle, soit vous mettez un ancien, donc qui a moins de capital politique, et le seul qui reste, il y en a deux qui pourraient rester chez les Républicains ou proches des Républicains, c'est François Baroin, dont le nom revient éternellement et qui ne sera jamais nommé, parce qu'éventuellement il ferait trop d'ombre à Emmanuel Macron, et je crois qu'Emmanuel Macron n'aime vraiment pas.
Je ne suis pas sûr que François Baroin va y aller.
Je ne suis pas sûr qu'il veuille y aller, mais que Macron n'en veut surtout pas à cause de l'épisode de l'AMF sur la question des impôts, etc.
Ouais.
Donc il reste une autre personnalité, mais je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron lui propose, et je ne suis pas sûr qu'il accepterait. Il ne reste plus que Nicolas Sarkozy.
Nicolas Sarkozy. Bon, voilà.
Je ne suis pas sûr que ça fasse plaisir à Bruno Retailleau et je ne suis pas sûr que ça obtienne les meilleurs suffrages à LR. Par ailleurs, je suis à peu près certain que François Bayrou et le Modem rejetteraient également ça. Si vous voulez, si vous avez un profil très à droite, si vous avez un profil LR, vous rompez avec le Modem, avec une partie de Renaissance. Si vous avez un profil trop à gauche, vous rompez avec LR et peut-être avec Horizon.
Donc finalement, cette fin du clivage qu'Emmanuel Macron voulait en 2017, ça ne marche pas dans le temps.
Ça ne marche pas dans le temps parce qu'en réalité, d'abord, vous n'avez pas des vrais partis structurés. Parce que l'épisode Rocard, si on y revient.
Ouais.
À l'époque, certes, il n'y a pas de majorité absolue, mais il y a
vous
un PS qui tient.
De 88, 81.
De 88.
Ouais.
Il y a une majorité socialiste qui tient et qui, même si vous avez parfois des maux d'estomac, etc., vous votez avec le gouvernement. Et puis, il y a des groupes qui tiennent également. Il y a des communistes et des centristes. Vous dealez avec eux et parfois, la plupart des 49 alinéa 3 sous Rocard, ils font pas.
28 fois. Hein.
28 fois, mais ils ne produisent pas de motion de censure. Mm. Pourquoi ? Parce que quand vous établissez votre 49 alinéa 3, vous faites quoi ? Vous marchandez avec les communistes, vous marchandez avec les centristes,
oui.
Quel amendement je te prends, etc. Et au bout du compte, il y a un texte, on sait que la motion de censure ne passera pas, personne ne la dépose et on oublie vite. Parce qu'à l'époque, vous avez des groupes qui tiennent. Aujourd'hui, Renaissance, Horizon, le Modem un peu moins. LR, ce sont des additions d'individualités. Et donc la réalité, c'est que la possibilité de tenir ces groupes, d'en faire quelque chose de manière structurelle dans le temps, qui plus est avec un président qui ne peut pas se représenter, et donc un avenir électoral des députés qui ne dépend pas de sa réélection, ça devient extrêmement, extrêmement complexe. La vraie défaite dans cette réforme des retraites, c'est certes celle d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, mais c'est également celle d'Olivier Marleix et d'Éric Ciotti. Il n'y a plus aujourd'hui de tête à la tête du groupe LR.